Chapitre 14e. L'infernale créature. Qu'on jette l'ancre, chuchota Joséphine Balsamo, et qu'on amène la barque par ici. Il traînait sur la mer une brume lourde qui, s'ajoutant à l'obscurité de la nuit, empêchait qu'on discernât même les lumières d'Étretat. Le phare d'Antifer ne trouvait d'aucune lueur le nuage impénétrable où le yacht du prince Lavornef naviguait à tâtons. « Qu'est-ce qui te prouve qu'on est en vue des côtes ?» objecta Léonard. « Mon désir qu'on y soit, » prononça la Cagliostro. Il s'irrita. « C'est de la folie, cette expédition, de la pure folie. Comment ? Voilà 15 jours que nous avons réussi et que, grâce à toi, je le reconnais, nous avons remporté la victoire la plus extraordinaire. Toute la masse des pierres précieuses est enfermée dans un coffre à Londres. Tout danger a disparu. Cagliostro, Pellegrini, Balsamo, marquise de Belmonte, tout cela est au fond de l'eau par suite de ce naufrage du ver luisant que tu as eu l'idée admirable d'organiser et auquel tu as présidé avec tant d'énergie. 20 témoins ont vu de la côte l'explosion. Pour tout le monde, tu es morte, 100 fois morte, et moi aussi, et tous tes complices. Si l'on arrivait à mettre debout l'histoire du trésor des moines, on arriverait par là même à constater qu'il a coulé au fond de l'eau avec le ver luisant, à un endroit impossible à définir, à déterminer exactement, et que les pierres se sont répandues dans la mer. Et de ce naufrage et de cette mort, crois bien que la justice est enchantée, et qu'elle n'y regardera pas de trop près, tellement la presse, en haut lieu d'étouffer l'affaire Beaumagnan-Cagliostro. Donc, tout va bien. Tu es maîtresse des événements et victorieuse de tous tes ennemis. Et c'est le moment où la prudence la plus élémentaire nous ordonne de quitter la France et de filer aussi loin que possible de l'Europe. C'est ce moment-là que tu choisis pour revenir au lieu même qui t'a porté malheur et pour affronter le seul adversaire qui te reste. Et quel adversaire, Josine ? Une sorte de génie si exceptionnel que sans lui, tu n'aurais jamais découvert le trésor. Avoue que c'est de la folie. » Elle murmura. « L'amour est une folie. Alors renonce. Je ne peux pas, je l'aime. » Elle avait appuyé ses coudes sur le bastingage et la tête entre ses mains, elle chuchotait avec désespoir. « J'aime. C'est la première fois. Les autres hommes, ça ne compte pas. Tandis que Raoul, ah, je ne veux pas parler de lui. C'est par lui que j'ai connu la seule joie de ma vie, mais aussi ma plus grande peine. Avant lui, j'ignorais le bonheur, mais aussi la douleur. Et puis le bonheur est fini. Et il n'y a plus que ma souffrance. Elle est horrible, Léonard. L'idée qu'il va se marier, qu'une autre vivra de sa vie, et qu'un enfant va naître de leur amour, non, c'est au-dessus de mes forces. Tout, plutôt que cela. J'aime mieux tout risquer, Léonard. J'aime mieux mourir. » Il dit, à voix basse, « Ma pauvre Josine. » Ils se turent assez longtemps, elle, toujours courbée et défaillante. Puis, comme la barque approchait, elle se redressa, et tout à coup impérieuse et dure. « Mais je ne risque rien, Léonard. Pas plus de mourir que d'échouer. »« Enfin quoi? Que veux-tu faire ?» L'enlever. « Oh, tu espères. Tout est prêt. Les moindres détails sont réglés. »« Comment ?»« Par l'intermédiaire de Dominique. » « Dominique. Oui. Dès le premier jour, avant même que Raoul arrivât à la haie des Tigres, Dominique s'y faisait engager comme palefrenier. Mais Raoul le connaît. Raoul l'a peut-être aperçu une fois ou deux. Mais tu sais à quel point Dominique est habile pour se grimer. Il est absolument impossible qu'on le distingue parmi tout le personnel du château et des écuries. Donc, Dominique m'a tenu au courant jour par jour et s'est conformé à mes instructions. » Je sais les heures où Raoul se lève et se couche, comment il vit et tout ce qu'il fait. Je sais qu'il n'a pas encore revu Clarisse, mais qu'on est en train de réunir les papiers nécessaires au mariage. Se défie-t-il ? De moi, non. Dominique a entendu les bribes d'une conversation que Raoul a eue avec Godefroy des Tigres le jour où il s'est présenté au château. Ma mort ne faisait pas de doute pour eux. Mais Raoul n'en voulait pas moins que l'on prît contre moi, morte, toutes les précautions possibles. Donc il observe, il guette, il monte la garde autour du château, il interroge les paysans. « Et Dominique te laisse quand même venir ?»« Oui, mais durant 1 heure seulement. Un coup de mardi rapide, la nuit, et aussitôt la fuite. »« Et c'est ce soir ?»« Ce soir, de 10 à 11. Raoul occupe un pavillon de garde, isolé, non loin de la vieille tour où Beaumagnan m'avait fait conduire. Ce pavillon, à cheval sur le mur d'enceinte, n'a du côté de la campagne qu'une fenêtre au rez-de-chaussée et pas de porte. Pour y pénétrer, si les volets sont clos, il faut franchir le grand portail du verger et rejoindre la façade intérieure. Les deux clés seront ce soir sous une grosse pierre près du portail. Raoul étant couché, on le roulera dans son matelas et dans ses couvertures qui sont larges, et on l'emportera jusqu'ici. À l'instant même, départ. C'est tout ? Joséphine Balsamo hésita, puis répondit nettement. C'est tout. Mais Dominique, il partira avec nous. Tu ne lui as pas donné d'ordre spécial ? À quel propos ? À propos de Clarisse. Tu la hais, cette petite. Alors, je crains bien que tu n'aies chargé Dominique de quelque besogne. Josine hésita de nouveau avant de répondre. Cela ne te regarde pas. Cependant, la barque glissait au flanc du bateau. Josine déclara, d'un ton de plaisanterie, « Écoute, Léonard, depuis que je t'ai créé prince Labornef et doté d'un yacht splendidement aménagé, tu deviens tout à fait indiscret. Ne sortons pas de nos conventions, veux-tu ? Moi, je commande et toi, tu obéis. Tout au plus, as-tu droit à quelques explications. Je te les ai données, fais comme si elles te suffisaient. »« Elles me suffisent, » dit Léonard, « et je reconnais que ton affaire est fort bien combinée. » « Tant mieux, descendons. » Elle descendit la première dans la barque et s'installa. Léonard et quatre de leurs complices l'accompagnèrent. Deux d'entre eux saisirent les rames, tandis qu'elle se mettait à l'arrière et donnait ses ordres aussi bas que possible. « Nous doublons la porte d'amont, » dit-elle au bout d'un quart d'heure, bien que ses acolytes eussent l'impression d'avancer comme des aveugles. Elle signalait à temps les roches à fleur d'eau et redressait la direction d'après des points de repère invisibles pour les autres. Seul le grincement des galets sous la quille les avertit qu'on abordait. Ils la prirent dans leurs bras et la portèrent jusqu'au rivage où ils tirèrent ensuite l'embarcation. « Tu es bien certaine, » souffla Léonard, « que nous ne rencontrerons pas de douaniers. » « Certes, le dernier télégramme de Dominique est catégorique. Il ne vient pas au-devant de nous ? Non. » Je lui ai écrit de rester au château parmi les gens du baron. À 11 heures, il nous rejoindra. Où ? Près du pavillon de Raoul. Assez parlé. Tous, ils s'engouffrèrent dans l'escalier du curé et montèrent silencieusement. Bien qu'ils fussent au nombre de 6, nul bruit, depuis la première minute jusqu'à la dernière, n'eût signalé leur ascension à l'oreille la plus attentive. En haut, la brume flottait plus légère et se déplaçait avec des intervalles et des déchirures qui permettait de voir le scintillement de quelques étoiles. Ainsi, la Cagliostro put-elle désigner le château des Tigues dont brillaient les fenêtres de la façade. L'église de Bénoville sonna 10 heures. Josine frissonna. Oh, le tintement de cette cloche! Je le reconnais. 10 coups, comme l'autre fois. 10 coups. Un par un, je les comptais en allant vers la mort. Tu t'es bien vengé, fit Léonard. De Beaumagnan, oui, mais des autres. « Des autres aussi. Les deux cousins sont à moitié fous. C'est vrai, » dit-elle. « Mais je ne me sentirai tout à fait vengé que dans 1 heure. Alors, ce sera le repos. » Ils attendirent un retour du brouillard afin qu'aucune de leurs silhouettes ne se détachât sur la plaine nue qu'il leur fallait traverser. Puis, Joséphine Balsamo s'engagea dans le sentier par où l'avait mené Godefroy et ses amis, et les autres la suivirent en file indienne, sans prononcer une seule parole. Les moissons avaient été coupées. De grosses meules arrondissaient le dos çà et là. Au voisinage du domaine, le sentier se creusait, bordé de ronces entre lesquelles ils marchèrent avec des précautions croissantes. La haute silhouette des murs se dressa. Quelques pas encore et le pavillon de garde, qui s'y trouvait encastré, apparut sur la droite. D'un geste, la Cagliostro barra le chemin. « Attendez-moi. » « Je te suis ?» demanda Léonard. « Non, je reviens vous chercher, et nous entrerons ensemble par le portail du verger, qui est à l'opposé sur la gauche. » Elle s'avança donc seule, en posant chacun de ses pieds si lentement que nulle pierre ne pouvait rouler sous ses bottines, nulle plante se froisser au contact de sa jupe. Le pavillon grandissait, elle y parvint. Elle toucha de la main les volets clos. La fermeture ne tenait pas, truquée par Dominique. Joséphine Balsamo écarta les battants de façon qu'une fissure se produisit. Un peu de clarté filtra. Elle colla son front et vit l'intérieur d'une chambre avec une alcôve qu'un lit remplissait. Raoul y était couché. Une lampe à toupie de cristal, surmontée d'un abat-jour de carton, couvrait d'un disque éclatant son visage, ses épaules, le livre qu'il lisait, et ses vêtements pliés sur une chaise voisine. Il avait un air extrêmement jeune, un air d'enfant qui apprend un devoir avec attention, mais qui lutte contre le sommeil. Plusieurs fois, sa tête pencha. Il se réveillait, se forçait à lire, et de nouveau s'endormait. À la fin, fermant son livre, il éteignit la lampe. Ayant vu ce qu'elle voulait voir, Joséphine Balsamo quitta son poste et retourna près de ses complices. Elle leur avait déjà donné ses instructions, mais par prudence, elle recommença et durant 10 minutes insista. « Surtout pas de brutalité inutile. Tu entends, Léonard. Comme il n'a rien à sa portée pour se défendre, vous n'aurez pas besoin de vous servir de vos armes. Vous êtes 5, cela suffit. S'il résiste, fit Léonard, c'est à vous d'agir de telle manière qu'il ne puisse pas résister. » Elle connaissait si bien les lieux par les croquis que lui avait envoyés Dominique qu'elle marcha sans hésitation jusqu'à l'entrée principale du verger. Les clés se trouvèrent à l'endroit convenu. Elle ouvrit et se dirigea vers la façade intérieure du pavillon. La porte fut ouverte aisément. Elle entra, suivie de ses complices. Un vestibule dallé les conduisit au seuil de la chambre à coucher dont elle poussa la porte avec une lenteur infinie. C'était le moment décisif. Si l'attention de Raoul n'avait pas été mise en éveil, s'il dormait encore, le plan de Joséphine Balsamo se trouvait réalisé. Elle écouta, rien ne bougeait. Alors elle s'effaça pour livrer passage aux 5 hommes, et d'un coup lâcha sa meute en lançant sur le lit le jet d'une lampe de poche. L'assaut fut si rapide que le dormeur ne dut se réveiller que lorsque toute résistance était vaine. Les hommes l'avaient roulé dans ses couvertures et rabattaient sur lui les 2 côtés du matelas, formant comme un long paquet de linge qu'ils ficelèrent en un tournement. La scène ne dura certes pas 1 minute. Il n'y eut pas un cri, aucun meuble n'avait été dérangé. Une fois de plus, la Cagliostro triomphait. « Bien, » dit-elle, avec un émoi qui décelait l'importance qu'elle attachait à ce triomphe. « Bien, nous le tenons. Et cette fois, toutes les précautions seront prises. « Que devons-nous faire ?» demanda Léonard. « Qu'on le porte sur le bateau. S'il appelle au secours, un bâillon, mais il se taira. Allez !» Léonard s'approcha d'elle, tandis que ses acolytes chargeaient le captif. « Tu ne viens pas avec nous ?»« Non. Pourquoi ?»« Je te l'ai dit, j'attends Dominique. » Elle ralluma la lampe et enleva l'abat-jour. « Comme tu es pâle, » lui dit Léonard à voix basse. « Peut-être, » fit-elle. « C'est à cause de la petite, n'est-ce pas ?»«
Oui. »
« Dominique agit en ce moment ?»« Qui sait, il sera encore temps d'empêcher. » »« Même s'il en était encore temps, » dit-elle, « ma volonté ne changerait pas. Ce qui doit être sera. » D'ailleurs, c'est chose faite. Va-t'en. Pourquoi nous en aller avant toi? Le seul péril vient de Raoul. Une fois Raoul en sûreté, dans le bateau, plus rien à craindre. File et laisse-moi. Elle leur ouvrit la fenêtre, qu'ils enjambèrent et par laquelle ils passèrent le prisonnier. Elle attira les volets, puis ferma la fenêtre. Après un instant, l'église sonna. Elle compta les 11 coups. En 11e, elle gagna l'autre façade sur le verger et prêta l'oreille. Il y eut un léger sifflement, à quoi elle répondit en tapant du pied sur la dalle du vestibule. Dominique accourut. Ils rentrèrent dans la chambre, et tout de suite, avant même qu'elle eût posé la question redoutable, il murmura « C'est fait. »« Ah » dit-elle faiblement, si troublée qu'elle chancela et s'assit. Ils se turent longtemps, Dominique reprit. « Elle n'a pas souffert. »« Elle n'a pas souffert, » répéta-t-elle. « Non, elle dormait. »« Tu en es bien sûr. » Qu'elle est morte, parbleu. J'ai frappé au cœur, 3 reprises. Ensuite, j'ai eu le courage de rester, pour voir. Mais ce n'était pas la peine. Elle ne respirait plus. Les mains devenaient toutes froides. Et si on s'en aperçoit, pas possible. On entre dans sa chambre qu'au matin, alors seulement on verra. Il n'osait pas se regarder. Dominique tendit la main. De son corsage, elle sortit 10 billets de banque qu'elle lui remit. « Merci, » dit-il. « Mais ce serait à recommencer que je refuserais. Que dois-je faire? T'en aller. En courant, tu rattraperas les autres avant qu'ils aient rejoint la barque. Ils sont avec Raoul d'Andrézy?
Oui.
Tant mieux. Il m'en a donné du mal, celui-là, depuis 15 jours. Il se méfiait. Ah, un mot encore. Les pierres précieuses, on les a. plus de danger. Elles sont dans le coffre d'une banque à Londres. Il y en a beaucoup, une valise pleine. Bigre. Plus de 100 000 francs pour moi, hein?
Davantage, mais dépêche-toi, à moins que tu n'aimes mieux m'attendre.
Non, non, dit-il vivement. J'ai hâte d'être loin, le plus loin possible. Mais vous?
Je cherche s'il n'y a pas ici des papiers dangereux pour nous, et je vous rejoins.
Il s'en alla. Aussitôt, elle fouilla dans les tiroirs de la table et d'un petit secrétaire, et, ne trouvant rien, explora les poches des vêtements pliés au chevet du lit. Le portefeuille surtout attira son attention. Il contenait de l'argent, des cartes de visite et une photographie. C'était celle de Clarisse Détig. Joséphine Balsamo la contempla longuement, avec une expression où il n'y avait pas de haine, mais qui était dure et qui ne pardonnait pas. Ensuite, elle demeura immobile, en une de ses attitudes absorbées, où ses yeux se fixaient sur on ne sait quel spectacle douloureux, tandis que les lèvres conservaient leur doux sourire. Il y avait une glace en face d'elle où son image se reflétait. Elle s'y regarda en posant ses deux coudes sur le marbre de la cheminée. Son sourire s'accentua, comme si elle eût conscience de sa beauté et s'en fût réjouie. Elle portait un capuchon de bure marron qu'elle rabattit sur ses épaules, et elle avança sur son front le voile impalpable qui ne quittait jamais ses cheveux et qu'elle arrangeait comme la Vierge de Bernardino Olouini. Elle se regarda ainsi durant quelques minutes, puis elle retomba dans sa rêverie. Et le quart après 11 heures sonna. Elle ne remuait plus. On eût dit qu'elle dormait. Qu'elle dormait avec des yeux grands ouverts et immobiles. À la longue, cependant, ils prirent ses yeux une expression moins vague, qui se fixait peu à peu. Il en est de même dans certains songes où toutes les idées, tumultueuses et incohérentes, se transforment en une idée de plus en plus précise, en une image de plus en plus exacte. Quelle était cette image déconcertante qu'il lui semblait apercevoir et à laquelle vainement elle essayait de s'habituer? Cela provenait de l'alcôve où s'enfermait le lit et que les rideaux d'étoffe garnissaient tout autour. Or, derrière ces rideaux, il devait y avoir un espace libre, un couloir de dégagement, car on eût vraiment dit qu'une main les agitait. Et cette main prenait des contours de plus en plus réels. Un bras la suivit. Et au-dessus de ce bras, bientôt, surgit une tête. Joséphine Balsamo, accoutumée aux séances spirites où l'ombre dessine des fantômes, donna un nom à celui que son imagination terrifiée faisait sortir des ténèbres. Celui-là était vêtu de blanc, et elle ne savait si la contraction de sa bouche était un sourire affectueux ou un rictus de colère. Elle balbutia.
« Raoul, Raoul, que me veux-tu ? »
Le fantôme écarta l'un des rideaux et longea le lit. Josine baissa les paupières en gémissant, puis les releva aussitôt. L'hallucination continuait, et l'être s'approchait avec des mouvements qui dérangeaient les choses et qui troublaient le silence. Elle voulut fuir, mais tout de suite, elle sentit sur son épaule l'étreinte d'une main qui n'était certes pas celle d'un fantôme, et une voix joyeuse s'exclama.
« Dis donc, ma bonne Joséphine, si j'ai un conseil à te donner, c'est de demander au prince Labornef de t'offrir une petite croisière de repos.
Tu en as besoin, ma bonne Joséphine.
Comment? Tu me prends pour un fantôme, moi, Raoul d'Andrézy. J'ai beau être en chemise de nuit en caleçon, je ne suis cependant pas un inconnu pour toi. »
Tandis qu'il enfilait son costume et qu'il renouait sa cravate, elle répétait
« Toi, toi ? »
« Mon Dieu, oui, moi. » Et s'asseyant à ses côtés, vivement, il lui dit «
Surtout, cher ami, ne gronde pas le prince Labornef, et ne crois pas qu'il m'ait laissé échapper une fois encore. Mais non, ce qu'ils ont emporté, ses amis et lui, c'est tout simplement un matelas et un mannequin de son, le tout roulé dans des couvertures. Quant à moi, je n'ai pas quitté cette ruelle, où je m'étais réfugié dès que tu avais abandonné ton poste derrière les volets. »
Joséphine Balsamo demeurait inerte, et aussi incapable de faire un geste que si on l'avait roué de coups.
« Fichtre, dit-il, tu n'es pas dans ton assiette. Veux-tu un petit verre de liqueur pour te remonter ? Je t'avoue d'ailleurs, Joséphine, que je comprends ton effondrement et je ne voudrais pas être à ta place. Tous les petits camarades partis, pas de secours possible avant 1 heure, et en face de toi, dans une chambre close, le dénommé Raoul. Il y a de quoi voir les choses en noir. Infortunée Joséphine, quelle culbute ! Il se baissa et ramassa la photographie de Clarisse. « Comme elle est jolie, ma fiancée, n'est-ce pas ?»«
J'ai remarqué avec plaisir que tu l'admirais tout à l'heure. Tu sais qu'on se marie dans quelques jours. »
La Cagliostra murmura. « Elle est morte. »
« En effet, j'ai entendu parler de cela. Le petit jeune homme de tout à l'heure l'a frappé dans son lit, n'est-ce pas ?»«
Oui. » »«
Un coup de poignard ?»«
3 coups de poignard, en plein cœur, » dit-elle.
« Oh, un seul suffisait, »
observa Raoul. Elle répéta lentement, comme en elle-même, « Elle est morte. Elle est morte. »
Il ricana. « Que veux-tu ? Cela arrive tous les jours. Et ce n'est pas pour si peu que je vais changer mes projets. » « Morte ou vivante, je l'épouse. On s'arrangera comme on pourra. Tu t'es bien arrangé, toi. »«
Que veux-tu dire ?» demanda Joséphine Balsamo, qui commença à s'inquiéter de ce persiflage.
« Oui, n'est-ce pas ? Le baron t'a noyé une première fois. Une seconde fois, tu as sauté avec ton bateau, le ver luisant. Eh bien, cela ne t'empêche pas d'être ici. De même, ce n'est pas une raison pour que Clarisse a reçu 3 coups de poignard dans le cœur pour que je ne l'épouse pas. »
D'abord, « es-tu bien sûr de ce que tu avances ?»«
C'est un de mes hommes qui a frappé. »«
Ou du moins qui t'a dit avoir frappé. »
Elle l'observa. « Pourquoi aurait-il menti ?»«
Dame, pour toucher les 10 billets de 1000 que tu lui as remis. » »«
Dominique est incapable de me trahir. »«
Pour 100 000 francs, il ne me trahirait pas. »« En outre, il sait bien que je vais le retrouver. »« Il m'attend avec les autres. » »«
Es-tu bien sûr qu'il t'attend, Josine ?»
Elle tressaillit. Elle avait l'impression de se débattre dans un cercle de plus en plus étroit. Raoul hocha la tête.
« C'est curieux comme nous avons fait, toi et moi, des boulettes vis-à-vis l'un de l'autre. Ainsi, toi, ma bonne Joséphine, faut-il que tu sois naïve pour croire que j'ai pu couper 1 minute dans l'explosion du ver luisant, dans le naufrage Pellegrini Cagliostro et dans les bourdes racontées par le prince Labornef. Comment n'as-tu pas deviné qu'un garçon qui n'est pas un imbécile que tu as formé à ton école, et quelle école, Vierge Marie, lirait dans ton jeu comme dans une Bible ouverte.
Trop commode, en vérité, le naufrage. On est chargé de crimes, on a les mains rouges de sang, la police court après vous. Alors on fait couler un vieux bateau, et tout le passé de crimes, le trésor volé, les richesses, tout cela fait naufrage. On passe pour mort, on fait peau neuve, et on recommence, un peu plus loin, sous un autre nom, à tuer, à torturer et à se tremper les mains dans le sang. À d'autres, ma vieille. Pour moi, quand j'ai lu ton naufrage, je me suis dit, ouvrons l'œil et le bon, et je suis venu ici.
Après un silence, Raoul reprit, voyons, Joséphine, mais ta visite était inévitable. Et fatalement, tu devais la préparer à l'aide de quelques complices. Fatalement, le yacht du prince Labornef devait voguer un soir par ici. « Fatalement, tu devais escalader l'échelle de perroquet par où l'on t'avait descendu sur un brancard. Alors quoi ? J'ai pris mes précautions. » Et mon premier soin fut de regarder autour de moi s'il n'y avait pas quelque figure de connaissance. Un compère, c'est l'enfance de l'art. Et du premier coup, j'ai reconnu le sieur Dominique, pour l'avoir vu, ce que tu ignorais, sur le siège de ta berline, à la porte de Brigitte Rousselin. Dominique est un loyal serviteur, mais que la peur des gendarmes et une volée de coups de bâton administrés par moi ont assoupli au point que toute sa loyauté est désormais à mon service, et qu'il l'a prouvé en t'envoyant de faux rapports et de fausses clés, et en ouvrant sous tes pas, de concert avec moi, le traquenard où tu as trébuché. Bénéfice pour lui, les 10 billets sortis de ta poche et que tu ne reverras jamais, car ton loyal serviteur est retourné au château sous ma protection. Voilà où nous en sommes, ma bonne Joséphine. J'aurais certes pu t'épargner cette petite comédie et t'accueillir ici directement pour le simple plaisir de te serrer la main. Mais j'ai voulu voir comment tu dirigeais l'opération, et tout en restant dans la coulisse, j'ai voulu voir aussi comment tu apprendrais le soi-disant assassinat de Clarisse Détigue.
Josine recula. Raoul ne plaisantait plus. Penché sur elle, il lui disait d'une voix contenue,
« Un peu d'émotion, à peine. C'est tout ce que tu as éprouvé. Tu as cru que cette enfant était morte, morte par ton ordre, et cela ne t'a rien fait. La mort des autres ne compte pas pour toi. On a 20 ans, toute la vie devant soi, de la fraîcheur, de la beauté. Tu supprimes tout cela, comme si tu écrasais une noisette. Aucun débat de conscience. Tu n'en ris certes pas,
mais tu ne pleures pas non plus. En réalité, tu n'y penses pas. Je me souviens que Beaumagnan t'appelait l'infernale créature, désignation qui me révoltait. Pourtant, le mot est juste. Il y a de l'enfer en toi. Tu es une sorte de monstre auquel je ne puis plus penser sans épouvante. Mais toi-même, Joséphine Balsamo, n'es-tu pas épouvantée par moments ? Elle gardait la tête baissée, ses deux poings collés aux tempes ainsi qu'elle faisait souvent. Les paroles impitoyables de Raoul ne provoquaient pas ce sursaut de rage et d'indignation qui l'attendait. Raoul sentit qu'elle était à l'un de ces moments de l'existence où l'on aperçoit le fond de son âme, où l'on ne peut pas se détourner de sa vision redoutable et où les mots d'aveu s'échappent à votre insu. Il n'en fut pas surpris outre mesure. Sans être fréquentes, ces minutes-là ne devaient pas être très rares chez cet être déséquilibré, dont la nature, impassible à la surface, s'abîmait dans de telles crises nerveuses. Les événements se présentaient à elle d'une façon si contraire à ses prévisions, et l'apparition de Raoul était si déconcertante qu'elle ne pouvait pas se redresser en face de l'ennemi qui l'outrageait si cruellement. Il en profita, serré contre elle, et la voix insinuante. « N'est-ce pas, Josine ? Tu es effrayée toi aussi par moments. N'est-ce pas ? Il arrive que tu te fais horreur. » La détresse de Josine était si profonde qu'elle murmura. « Oui, oui, quelquefois. » Mais il ne faut pas m'en parler, je ne veux pas savoir. Tais-toi, tais-toi. Mais au contraire, dit Raoul, il faut que tu saches. Si tu as l'horreur de tels actes, pourquoi les commettre? Je ne peux pas faire autrement, dit-elle avec une lassitude extrême. Tu essayes donc? Oui, j'essaie, je lutte, mais c'est toujours la défaite. On m'a appris le mal. Je fais le mal comme d'autres font le bien. Je fais le mal comme on respire. On a voulu cela. Qui? Il entendit confusément ces deux mots, ma mère, et reprit aussitôt, ta mère, l'espionne, celle qui a combiné toute cette histoire Cagliostro. Oui, mais ne l'accuse pas, elle m'aimait bien, seulement elle n'avait pas réussi. Elle était devenue pauvre, misérable, et elle voulait que je réussisse, et que je sois riche. Mais tu étais belle, cependant, la beauté pour une femme, c'est la plus grande richesse, la beauté suffit. Ma mère était belle aussi, Raoul. Et pourtant sa beauté ne lui avait servi à rien. Tu lui ressemblais, à s'y méprendre. Et c'est cela qui fut ma perte. Elle a voulu que je continue ce qui avait été sa grande idée, l'héritage Cagliostro. Elle avait des documents, un bout de papier. Le papier des quatre énigmes qu'une de ses amies avait trouvé dans un vieux livre et qui semblait réellement de l'écriture de Cagliostro. Ça l'avait grisé, ainsi que son succès auprès de l'impératrice Eugénie. Alors j'ai dû continuer. Tout enfant, elle m'entrait ça dans la tête. On m'a formé un cerveau avec cette idée-là seulement. Ça devait être mon gagne-pain, ma destinée. J'étais la fille de Cagliostro. Je reprenais sa vie à elle, et sa vie à lui. Une vie brillante, comme celle qu'il avait eue dans les romans. La vie d'une aventurière adorée de tous et dominant le monde. Pas de scrupules, pas de conscience. Je devais la venger de tout ce qu'elle avait souffert elle-même. Quand elle est morte, c'est le mot qu'elle m'a dit. « Venge-moi. » Raoul réfléchissait, il prononça. « Soit, mais les crimes, ce besoin de tuer. » Il ne put saisir sa réponse et pas davantage ce qu'elle répliqua lorsqu'il lui dit. « Ta mère n'était pas seule à t'élever, Josine, à te dresser au mal. Qui était ton père ?» Il crut entendre le nom de Léonard. Mais voulait-elle dire que Léonard était son père? Que Léonard était l'homme qui avait été expulsé de France en même temps que l'espionne? Et cela semblait assez plausible. Ou bien que Léonard l'avait dressé au crime? Raoul n'en sut pas davantage, et ne put pénétrer dans ces régions obscures où s'élaborent les mauvais instincts et où fermente tout ce qui est déséquilibre, tout ce qui détraque et désagrège, tous les vices, toutes les vanités, tous les appétits sanguinaires, toutes les passions inexorables et cruelles qui échappent à notre contrôle. Il ne l'interrogea plus. Elle pleurait silencieusement. Elle sentait des larmes et des baisers sur ses mains qu'elle tenait éperdument et qu'il avait la faiblesse de lui abandonner. Une pitié sournoise s'infiltrait en lui. La mauvaise créature devenait une créature humaine, une femme livrée à l'instinct malade qui subissait la loi des forces irrésistibles et qu'il fallait peut-être juger avec un peu d'indulgence. Ne me repousse pas, disait-elle. Tu es le seul être au monde qui aurait pu me sauver du mal. Je l'ai senti tout de suite. Il y a en toi quelque chose de saint, de bien portant. Ah, l'amour, l'amour. Il n'y a que lui qui m'est apaisé. Et je n'ai jamais aimé que toi. Alors si tu me rejettes... Les lèvres douces pénétraient Raoul d'une langueur infinie. Toute la volupté et tout le désir embellissaient cette compassion dangereuse qui amollit la volonté des hommes. Et peut-être, si la Cagliostro se fût contenté de cette humble caresse, eût-il succombé de lui-même à la tentation de se pencher et de goûter une fois encore la saveur de cette bouche qui s'offrait à lui. Mais elle releva la tête, elle glissa ses bras le long des épaules, elle lui entoura le cou, elle le regarda, et ce regard suffit pour que Raoul ne vit plus en elle la femme qui implore, mais celle qui veut séduire et qui se sert de la tendresse de ses yeux et de la grâce de ses lèvres. Le regard lit les amants, mais Raoul savait tellement ce qu'il y avait derrière cette expression charmante, ingénue et douloureuse. La pureté du miroir ne rachetait pas toutes les laideurs et toutes les ignominies qu'il voyait avec tant de lucidité. Il se reprit peu à peu. Il se dégagea de la tentation et, repoussant la sirène qui l'enlaçait, il lui dit « Tu te rappelles, un jour, sur la péniche, nous avons eu peur l'un de l'autre comme si nous cherchions à nous étrangler. Il en est de même aujourd'hui. Si je retombe dans tes bras, je suis perdu. Demain, après-demain, c'est la mort. » Elle se redressa, tout de suite hostile et méchante. L'orgueil l'envahissait de nouveau, et la tempête s'éleva brusquement entre eux, lui faisant passer sans transition de l'espèce de torpeur où les attardait le souvenir de l'amour, un âpre besoin de haine et de provocation. « Mais oui, reprit Raoul, au fond, dès le premier jour, nous avons été des ennemis féroces. L'un et l'autre, nous ne pensions qu'à la défaite de l'autre, toi surtout. J'étais le rival, l'intrus. Dans ton cerveau, mon image se mêlait à l'idée de la mort. Volontairement ou non, tu m'avais condamné. » Elle secoua la tête et d'un ton agressif, « Jusqu'ici, non. » « Mais maintenant, oui, n'est-ce pas ?»« Seulement, s'écria-t-il, un fait nouveau se présente. C'est que maintenant je me moque de toi, Joséphine. L'élève est devenu le maître, et c'est cela que j'ai voulu te prouver en te laissant venir ici et en acceptant la bataille. Je me suis offert seul, à tes coups et aux coups de ta bande. Et voilà que nous sommes l'un en face de l'autre et que tu ne peux rien contre moi. Déroute sur toute la ligne, hein ? Clarisse vivante, moi libre. Alors, ma belle, décampe de ma vie, tu es battue à plate couture et je te méprise. » Il lui jetait en pleine face les mots injurieux qui la cinglaient comme des coups de cravache. Elle était blême, son visage se décomposait et pour la première fois, son inaltérable beauté accusait certains signes de déchéance et de flétrissure. Elle grinça. « Je me vengerai. »« Impossible, ricana Raoul, je t'ai coupé les ongles, tu as peur de moi, voilà ce qui est merveilleux et qui est mon œuvre d'aujourd'hui. » « Tu as peur de moi. » « Toute ma vie sera consacrée à cela, » murmura-t-elle. « Rien à faire. Tous tes trucs sont connus. Tu as échoué. C'est fini. » Elle hocha la tête. « J'ai d'autres moyens. Lesquels ? Cette fortune incalculable, ces richesses que j'ai conquises. Grâce à qui ? » demanda Raoul allègrement. « S'il y a un coup d'aile dans l'étrange aventure, n'est-ce pas moi qui l'ai donné ? Peut-être. Mais c'est moi qui ai su agir et prendre, et tout est là. » Comme parole, tu n'es jamais en reste, mais il fallait un acte en cette occasion, et cet acte, je l'ai accompli. Parce que Clarisse est vivante, que tu es libre, tu cries victoire, mais la vie de Clarisse et ta liberté, Raoul, ce sont de petites choses auprès de la grande chose qui était l'enjeu de notre duel, c'est-à-dire les milliers et les milliers de pierres précieuses. La vraie bataille était là, Raoul, et je l'ai gagnée, puisque le trésor m'appartient. « Sait-on jamais ? » dit-il d'un ton gouailleur. « Mais si, il m'appartient. » Moi-même, j'ai enfoui les pierres innombrables dans une valise qui a été ficelée et cachetée devant moi, que j'ai portée jusqu'au Havre, que j'ai mise à fond de cale dans le verre luisant et que j'ai retirée avant que l'on fasse sauter ce bateau. Elle est à Londres maintenant, dans le coffre d'une banque, ficelée et cachetée comme à la première heure. « Oui, oui, » approuva Raoul d'un petit air entendu. La corde est toute neuve, encore raide et propre. Les cachets sont au nombre de 5, en cire violette, aux initiales J.B., Joséphine Balsamo. Quant à la valise, c'est de l'osier tressé. Elle est munie de courroies et de poignées en cuir. Quelque chose de simple, qui n'attire pas l'attention. La Cagliostro leva sur lui des yeux effarés. Tu sais donc, comment sais-tu ? Nous sommes restés ensemble, elle et moi, durant quelques heures, dit-il en riant. Elle articula. Mensonge, tu parles au hasard. La valise ne m'a pas quitté une seconde, depuis la prairie du Ménil sous Jumièze jusqu'au coffre-fort. Si, puisque tu l'as descendue dans la cale du ver luisant. Je me suis assise sur le battant de fer qui recouvre cette cale, et un homme à moi veillait au-dessus du hublot par où tu aurais pu entrer, et cela pendant tout le temps que nous étions en rade du Havre. Je le sais. Comment le saurais-tu ? J'étais dans la cale. Phrase effrayante. Il la répéta, puis, à la stupeur de Joséphine Balsamo, s'amusant lui-même de son récit, il raconta. Mon raisonnement, au Ménil sous Jumièges, devant la borne détruite, fut celui-ci. Si je cherche cette bonne Joséphine, je ne la retrouverai pas. Ce qu'il faut, c'est deviner l'endroit où elle sera à la fin de cette journée, m'y rendre avant elle, être là quand il y arrivera, et profiter de la première occasion pour barboter les pierres précieuses. Or, traqué par la police, poursuivi par moi, avide de mettre le trésor à l'abri, inévitablement tu dois fuir, c'est-à-dire passer à l'étranger. Comment ? Grâce à ton bateau, le ver luisant. À midi, j'étais au Havre. À 1 heure, les 3 hommes de ton équipage s'en allaient prendre leur café au bar. Je franchissais le pont et plongeais à fond de cale derrière un amoncellement de caisses, de tonneaux et de sacs de provisions. À 6 heures, tu arrivais et tu descendais ta balise au moyen d'une corde, la mettant ainsi sous ma protection. « Tu mens, tu mens !» balbutia la Cagliostro d'une voix rageuse. Et il continua. À 10 heures, Léonard te rejoint. Il a lu les journaux du soir et connaît le suicide de Beaumagnan. À 11 heures, on lève l'ancre. À minuit, en pleine mer, on est abordé par un autre bateau. Léonard, qui devient prince Labornef, préside au déménagement. Tous les matelots, tous les colis ayant de la valeur, tout cela passe d'un pont à l'autre et en particulier, bien entendu, la valise que tu remontes du fond de la cale, et puis au diable le ver luisant. Je t'avoue qu'il y a eu là, pour moi, quelques vilaines minutes. J'étais seul, plus d'équipage, pas de direction. Le ver luisant semblait dirigé par un homme ivre qui se cramponne à son gouvernail. On eût dit un jouet d'enfant, que l'on a remonté, qui tourne, qui tourne. Et puis je devinais ton plan, la bombe placée quelque part, le mécanisme se déclenchant, l'explosion. J'étais couvert de sueur, me jetais à l'eau. J'allais m'y décider, lorsqu'au moment d'enlever mes chaussures, je me rendis compte, avec une joie qui me fit défaillir, qu'il y avait, dans le sillage du ver luisant, attaché par une amarre, un canot qui bondissait sur l'écume. C'était le salut. 10 minutes plus tard, assis tranquillement, je voyais une flamme jaillir dans l'ombre, à quelques centaines de mètres, et j'entendais une détonation rouler à la surface de l'eau, comme les échos du tonnerre. Le ver luisant sautait. La nuit suivante, après avoir été quelque peu ballotté, j'étais poussé en vue des côtes, non loin du cap d'Antifer. Je me mettais à l'eau, j'atterrissais, et le jour même, je me présentais ici pour me préparer à ta bonne visite, ma chère Joséphine. La Cagliostro avait écouté, sans interrompre, et l'air assez rassuré. Autant de paroles inutiles avait-elle l'air de dire. L'essentiel, c'était la valise. Que Raoul se fût caché dans le bateau et qu'ensuite il eût évité le naufrage, cela n'avait point d'importance. Elle hésitait cependant à poser la question définitive, sachant bien, tout de même, que Raoul n'était pas homme à tant risquer pour ne pas obtenir d'autre résultat que de se sauver lui-même. Elle était toute pâle. « Eh bien, fit Raoul, tu ne me demandes rien. Qu'ai-je à te demander ? Tu l'as dit toi-même. J'ai repris la valise. Depuis, je l'ai mise en lieu sûr. Et tu n'as pas vérifié ? « Ma foi, non. L'ouvrir, à quoi bon ? Les cordes et les cachets sont intacts. »« Tu n'as pas remarqué les traces d'un trou sur le côté, une fissure pratiquée entre les mailles de l'osier. »« Une fissure. Dame, crois-tu que je sois resté 2 heures en face de l'objet sans agir ? Voyons, Joséphine, je ne suis pourtant pas si bête. »« Alors ? » fit-elle d'une voix faible. « Alors, ma pauvre amie, peu à peu, patiemment, j'extrais tout le contenu de la valise de sorte que... »« De sorte que... »« De sorte que, quand tu l'ouvriras, tu n'y trouveras guère qu'un poids équivalent de denrées pas très précieuses, ce que j'avais sous la main, ce que j'ai pu prendre dans les sacs de provisions, quelques livres de haricots et de lentilles, enfin, des marchandises qui ne valent peut-être pas la peine que tu payes la location d'un coffre-fort dans une banque de Londres. » Elle essaya de protester et murmura. Ce n'est pas vrai. Il est impossible que tu aies pu. » Du haut d'un placard, il descendit une petite sébile d'où il versa dans le creux de sa main deux ou trois douzaines de diamants, de rubis et de saphirs, et d'un air négligent, il les fit danser, miroiter et s'entrechoquer. « Et il y en a d'autres. » Certes, l'explosion imminente m'empêchait de prendre tout, et les richesses des moines se sont éparpillées au sein des eaux. Mais tout de même, n'est-ce pas, pour un jeune homme, il y a de quoi s'amuser et patienter. Qu'en dis-tu, Josine? Tu ne réponds pas. Mais sapristi, qu'y a-t-il donc? Hein? J'espère que tu ne vas pas t'évanouir. Ah, ces sacrées femmes, ça ne peut pas perdre un milliard sans tourner de l'œil. Quelle mazette! Joséphine Balsamo ne tournait pas de l'œil, selon l'expression de Raoul. Elle s'était dressée, livide et le bras tendu. Elle voulait insulter l'ennemi. Elle voulait le frapper, mais elle suffoquait. Ses mains battirent l'air, comme des mains de naufragés qui s'agitent à la surface, et elle s'abattit contre le lit avec des gémissements rauques. Raoul, sans s'émouvoir, attendit la fin de la crise. Mais il avait encore quelques paroles à placer, et il ricana. « Eh bien, t'ai-je battu à plate couture? Les épaules de madame ont-elles touché? Es-tu knock-out? Débâcle sur toute la ligne, hein? C'est ce que j'ai voulu te faire sentir, Joséphine. Tu partiras d'ici convaincue que tu ne peux rien contre moi, et que le mieux est de renoncer à toutes tes petites machinations. Je serai heureux malgré toi, et Clarisse aussi, et nous aurons beaucoup d'enfants, autant de vérités auxquelles il te faut consentir. » Il se mit à marcher, et il continuait de plus en plus gaiement. Aussi, que veux-tu? Il y a de la malchance dans ton cas. Tu t'es mise en guerre contre un gaillard qui est mille fois plus fort et plus malin que toi, ma pauvre fille. Je suis ahuri moi-même de ma force et de ma malice. Tu, Dieu, quel phénomène d'habileté, de ruse, d'intuition, d'énergie, de clairvoyance, un vrai génie. Rien ne m'échappe. Je lis un livre ouvert dans le cerveau de mes ennemis. Leurs moindres pensées me sont connues. Ainsi, en ce moment, tu me tournes le dos, n'est-ce pas? Tu es aplati sur le lit, et je ne vois pas ton charmant visage, eh bien? Je me rends parfaitement compte que tu es en train de glisser ta main dans ton corsage et d'en tirer un revolver, et que tu vas... » La phrase ne fut pas achevée. Brusquement, la Cagliostro avait fait volte-face, un revolver à la main. Le coup partit, mais Raoul, qui s'y préparait, avait eu le temps de saisir le bras, de le tordre et de le replier dans la direction même de Joséphine Balsamo. Elle tomba, atteinte à la poitrine. La scène avait été si brutale, et le dénouement si imprévu, qu'il demeura interdit devant ce corps inerte soudain, et qui gisait la face toute blanche. Pourtant, aucune inquiétude ne le tourmentait. Il ne pensait point qu'elle fût morte, et de fait, s'étant penché, il constata que le cœur battait régulièrement. Avec des ciseaux, il échancra le corsage. La balle, jaillie de biais, avait glissé, labourant la chair un peu au-dessus du signe noir qui marquait le sein droit. « Blessure sans gravité, » dit-il, tout en pensant que la mort d'une pareille créature eût été chose juste et souhaitable. Il gardait ses ciseaux à la main, la pointe en avant, et il se demandait si son devoir n'était pas d'abîmer cette beauté trop parfaite, de taillader en pleine chair, de mettre ainsi la sirène dans l'impossibilité de nuire. Une balafre en croix profonde au travers du visage et dont la cicatrice indélébile soulèverait la peau boursouflée. Quel équitable châtiment et quelle utile précaution, que de malheurs évités et de crimes prévenus! Il n'en eut pas le courage et ne voulut pas s'en arroger le droit. Et puis, il l'avait trop aimée. Il resta longtemps à la considérer, sans faire un mouvement, et avec une tristesse infinie. La lutte l'avait épuisé. Il se sentait plein d'amertume et de dégoût. Elle était son premier grand amour, et ce sentiment, où le cœur ingénu apporte tant de fraîcheur et dont il garde un souvenir si doux, ne lui laisserait à lui que rancune et que haine. Toute sa vie, il aurait aux lèvres un pli de désenchantement et dans l'âme une impression de flétrissure. Elle respira plus fort et souleva ses paupières. Alors il éprouva le besoin irrésistible de ne plus la voir et de ne plus même penser à elle. Ouvrant la fenêtre, il écouta. Des pas, lui sembla-t-il, arrivaient de la falaise. Léonard avait dû constater, en atteignant le rivage, que l'expédition se réduisait à la capture d'un mannequin et sans doute, inquiet de Joséphine Balsamo, venait-il à son secours. qu'il la trouve ici, qu'il l'emporte, se dit-il. Qu'elle meure ou qu'elle vive, qu'elle soit heureuse ou malheureuse, je m'en moque. Je ne veux plus rien savoir d'elle. Assez, assez de cet enfer. Et sans une parole, sans un regard à la femme qui lui tendait les bras et le suppliait, il partit. Le lendemain matin, Raoul se faisait annoncer chez Clarisse Détigue. Pour ne pas toucher trop tôt à des blessures qu'il devinait si sensibles, il n'avait pas revu la jeune fille. Mais elle savait qu'il était là, et tout de suite, il comprit que le temps accomplissait déjà son œuvre. Les joues étaient plus roses, les yeux brillaient d'espoir. « Clarisse, lui dit-il, dès le premier jour, vous avez promis de tout me pardonner. » « Je n'ai rien à vous pardonner, Raoul, » affirma la jeune fille, qui pensait à son père. « Si, Clarisse, je vous ai fait beaucoup de mal. Je m'en suis fait beaucoup à moi aussi. Et ce n'est pas seulement votre amour que je demande. Ce sont vos soins et votre protection. J'ai besoin de vous, Clarisse, pour oublier d'affreux souvenirs, pour reprendre confiance dans la vie et pour combattre d'assez vilaines choses qui sont en moi et qui m'entraînent, où je ne voudrais pas aller. Si vous m'aidez, je suis sûr d'être un honnête homme. Je m'y engage sincèrement et je vous promets que vous serez heureuse. Voulez-vous être ma femme, Clarisse ? » Elle lui tendit la main. Épilogue. Comme le supposait bien Raoul, tout le vaste système d'intrigue tendu pour la capture du trésor fabuleux resta dans l'ombre. Le suicide de Beaumagnan, les aventures de la Pellegrini, la personnalité mystérieuse de la comtesse de Cagliostro, sa fuite, le naufrage du ver luisant, autant de faits divers que la justice ne put pas ou ne voulut pas relier les uns aux autres. Le mémoire du cardinal archevêque fut détruit ou disparu. Les associés de Beaumagnan se désunirent et ne parlèrent pas. On ne sut rien. À plus forte raison, le rôle de Raoul dans toute cette affaire ne pouvait être soupçonné, et son mariage passa inaperçu. Par quel prodige réussit-il à se marier sous le nom de vicomte d'Andrézy ? Sans doute, doit-on attribuer ce tour de force aux moyens d'action formidables que lui donnaient les deux poignées de pierres précieuses prélevées sur le trésor. Avec cela, on achète bien des complicités. Et c'est de même ainsi évidemment que le nom de Lupin se trouva un jour escamoté. Sur aucun registre d'état civil, sur aucune pièce authentique, il ne fut plus question d'Arsène Lupin, ni de son père Théophraste Lupin. Légalement, il n'y eut plus que le vicomte Raoul d'Andrézy, lequel vicomte partit en voyage à travers l'Europe avec la vicomtesse née Clarisse Détigue. Deux événements marquèrent cette époque. Clarisse mit au monde une fille qui ne vécut point, et quelques semaines plus tard, elle apprenait la mort de son père. Godefroy Détigue, en effet, et son cousin Bento périrent au cours d'une promenade en barque. Accident, suicide, les deux cousins, dans les derniers temps de leur vie, passaient pour fous, et l'on admit généralement qu'ils s'étaient tués. Il y eut aussi la version du crime, et l'on s'entretint d'un yacht de plaisance qui aurait coulé la barque et se serait enfui. Mais point de preuve. En tout état de cause, Clarisse ne voulut pas toucher à la fortune de son père. Elle en fit don à des institutions de charité. Des années encore s'écoulèrent, années charmantes et insouciantes. Raoul tenait l'une des promesses qu'il avait faites à Clarisse. Elle fut profondément heureuse. L'autre promesse, il ne la tint pas. Il ne fut pas honnête. Cela, il ne le pouvait pas. Il avait dans le sang le besoin de prendre, de combiner, de mystifier, de duper, de s'amuser aux dépens d'autrui. Il était, d'instinct, contrebandier, flibustier, maraudeur, pirate, conspirateur et surtout chef de bande. En outre, à l'école de la Cagliostro, il s'était rendu compte, avec un certain orgueil, des qualités vraiment exceptionnelles qui le mettaient hors de pair. Il croyait à son génie. Il s'attribuait des droits à une destinée fantastique, en opposition avec la destinée de tous les hommes qui vivaient en même temps que lui. Il serait au-dessus de tous, il serait le maître. À l'insu donc de Clarisse, et sans que jamais la jeune femme eût le moindre soupçon, il monta des entreprises et réussit des affaires où, de plus en plus, s'affirma son autorité et se développèrent ses dons réellement surhumains. Mais avant tout, se disait-il, le repos et la félicité de Clarisse. Il respectait sa femme. Qu'elle fût et qu'elle se sût l'épouse d'un voleur, cela, il ne l'admit pas. Leur bonheur dura 5 ans. Au début de la 6e année, Clarisse mourut des suites d'une couche. Elle laissait un fils appelé Jean. Or, le surlendemain, ce fils disparut, sans que le moindre indice permît à Raoul de découvrir qui avait pu pénétrer dans la petite maison d'Auteuil qu'il habitait, ni comment on avait pu y pénétrer. Quant à savoir d'où le coup provenait, là-dessus aucune hésitation. Raoul, qui ne doutait pas que le naufrage des deux cousins n'eût été provoqué par la Cagliostro, Raoul, qui depuis avait appris en outre que Dominique était mort empoisonné, Raoul considéra comme établi que la Cagliostro avait organisé l'enlèvement. Son chagrin le transforma. N'ayant plus ni femme ni fils pour le retenir, il se jeta résolument dans la voie où l'entraînait tant de force. Du jour au lendemain, il fut Arsène Lupin. Plus de réserve, plus de ménagement, au contraire, du scandale, des provocations, de l'arrogance. Un étalage de vanité et de gouaillerie. Son nom sur les murs, sa carte de visite dans les coffres-forts, Arsène Lupin, quoi. Mais que ce fût sous ce nom, ou sous les noms divers qu'il s'amusait à prendre, qu'il se fit appeler comte Bernard d'Andrézy, il avait dérobé les papiers d'un cousin de sa famille mort à l'étranger, ou Horace Velmont, ou colonel Sparmiento, ou duc de Chamreys, ou prince Cernine, ou Don Luis Perena, toujours et partout, au milieu de tous ces avatars et sous tous les masques, il cherchait la Cagliostro et il cherchait son fils Jean. Il ne retrouva pas son fils. Il ne revit jamais Joséphine Balsamo. Vivait-elle encore? Osait-elle se risquer en France? Continuait-elle à persécuter et à tuer? Devait-il admettre, en ce qui le concernait, que la menace éternellement dirigée contre lui, depuis la minute même de la rupture, aboutirait à quelque vengeance plus cruelle que l'enlèvement de son enfant? Toute la vie d'Arsène Lupin, folles entreprises, épreuves surhumaines, triomphes inouïs, passions démesurées, ambitions extravagantes, tout cela devait se dérouler avant que les événements lui permissent de répondre à ces questions redoutables. Et ainsi se fait-il que sa première aventure se renoua, plus d'un quart de siècle après, à ce qu'il lui plaît de considérer aujourd'hui comme sa dernière aventure. Ainsi s'achève La comtesse de Cagliostro de Maurice Leblanc.